cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Cultivons notre jardin. Pour cette nouvelle émission, nous vous emmenons avec Jackie en sortie pédagogique dans son univers jardinesque. Salut Jackie.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors voilà, on a une presque formidable journée côté météo.
Oui,
on n'est
oui,
pas loin du
oui,
presque, formidable.
Oui, presque formidable.
Bon déjà, il ne pleut pas, c'est un peu mouillé, mais bon, du coup avec Jackie, on a les pieds verts.
Voilà.
Et nous sommes bien encahuétés.
Voilà, mais c'est le printemps. C'est bien que ce soit humide, le printemps, aussi pour les plantes. Ne pensons pas qu'à nous, pensons aux plantes.
Voilà, la végétation est ravie. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes sur les hauteurs de Montroda. Au soleil quand même, hein, même si voilà. Je vois quelques gouttes d'eau pointées.
Lieu dit Inos, pour ne rien cacher.
Très joli petit nom, Inos. Et voilà, donc là, nous sommes sur le terrain de Jackie, où il a son jardin potager et aussi son verger conservatoire.
Voilà, c'est tout en un, en fait. On est ici sur un terrain que j'ai acheté il y a 6-7 ans, qui était complètement envahi par les ronces des arbres dans le jardin. Hein. Il se compose de deux parcelles, une petite parcelle de 140 mètres carrés qui est un jardin entre murs, et un grand terrain de 7600 m² qui est donc mon verger de sauvegarde. Alors peut-être on va décomposer un petit peu entre les deux parce que j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus.
Ouais, ça sera super. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de travail, effectivement, si pour un terrain qui a été acquis il y a 6 ou 7 ans. Donc, bravo, Jackie, parce que ici, c'est magnifique. Alors, vous pouvez pas être là, mais je vais essayer d'être vos yeux.
Voilà. On va essayer de raconter un petit peu. Normalement, si le son passe bien, on doit entendre aussi les oiseaux, parce que on est vraiment en pleine campagne. C'est à 960 mètres d'altitude.
Oui, on est haut quand même.
Ça, c'est important à savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Voilà, et donc, je ne sais pas, on commence par où tu veux.
Eh bien, on pourrait peut-être commencer par le jardin potager, qu'est-ce que tu en dis ?
Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, donc, il faut.
Non, il n'y en a pas des soucis là, j'en ai pas vu.
Il faut imaginer une petite parcelle légèrement triangulaire.
En contrebas.
Avec deux niveaux.
Ouais.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un verger.
Un jardin.
Un jardin potager. Mais il y a de ça à peu près 40 ans.
Ah.
Donc, il avait été laissé pendant 35 ans, sans aucune action. Ça veut dire que, comme on a des arbres autour, des frênes, des érables, ça veut dire que pendant 35 ans, il y a des frênes et des érables qui ont poussé dedans.
Ah, tu les
as... Il y avait 60 arbres
oh.
dans ces 140 mètres carrés, des arbres qui faisaient jusqu'à 10-12 mètres de haut. Donc, gros problème, comment faire ? Alors, petit à petit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait petit à petit, avec le moins de mécanisation possible. C'est-à-dire que les arbres, il a fallu les coucher avec un tir-fort, un câble.
Ouais.
Et puis, allez, on prenait comme point d'appui un des arbres à la base pour être bien résistant. Et puis, à 1,50 m du sol, on mettait le filin et on tirait ces arbres ensuite qu'il fallait débiter. Alors là, par contre, effectivement, débiter à la tronçonneuse. Pour donner un ordre d'idée, dans ces 140 mètres carrés, j'ai récolté 8 stères de bois.
Voilà. Alors c'est incroyable quand on se trouve là devant aujourd'hui, parce que 140 mètres carrés pour un jardin, je peux vous dire que ça fait pas très grand quand même. Hein, mais bon, c'est une bonne taille pour un jardin quand on s'est cultivé en fait. Entouré d'un muret en pierre sèche qui est magnifique.
Voilà, oui, c'est des schistes en fait. Hein. Cette pierre donne aussi l'argile du terrain. Hein. C'est des schistes qui se décomposent, qui ont donné l'argile.
Ouais.
Et là, en fait, c'était on voit le jardin à deux niveaux. Ce sont des niveaux naturels, puisqu'en fait, on a la roche directement. On peut avoir environ 3 mètres de dénivelé entre les deux parties du terrain. Donc, il y a grosse partie de rocher et ensuite construction de murs pour arriver à en faire quelque chose. Voilà. Donc, il a fallu arracher les arbres. Après, il a fallu reprendre tout à la pioche. Pour retirer les racines, hein. Il est impossible de toute façon d'y rentrer un engin, puis je voulais surtout pas de motoculteur, de choses comme ça, donc tout a été
donc
tout
ça
a
passe
été
pas
fait
par
à la
l'entrée
main.
Je peux vous garantir que les engins là, vu la taille de l'entrée entre les deux murets de pierre sèche, bon, ça passe pas, c'est
voilà.
Pas compliqué.
Donc alors ensuite l'idée c'était quand même de faire un verger. L'idée principale.
Oui.
On en reparlera quand on parlera du verger, mais dans cette grande parcelle de 7600 m², il y a deux gros arbres.
Ah.
Un cormier qui doit avoir environ 150 ans, j'imagine.
Oh.
Voilà. Et puis un très gros poirier aussi. C'est des arbres qui existaient. Ça, les autres, je les ai plantés, mais ceux-là existaient. Et en fait, c'est en voyant ces arbres dans ce terrain où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir du sol là-dessous pour que ces arbres soient si vieux. C'est qu'ils ont, ils ont bien vécu là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est important pour expliquer le potager, la forme du potager, c'est que l'idée, c'était quand même de faire un verger de sauvegarde, donc d'avoir des arbres de variété locale et ancienne. Pour avoir des arbres de variété locale et ancienne, eh ben déjà, il faut trouver...
Un bon terrain.
Il faut trouver un bon terrain, il faut trouver des arbres fruitiers qui donnent ça, puis après, il faut greffer. Hein, donc
ouais.
L'idée, j'y arrive, c'est que en fait, bah, dans la partie potager, on peut dire que c'est un potager, mais aussi une pépinière où en fait, j'ai commencé dès le début à chercher des arbres, des porte-greffes, des greffons, et j'ai fait ma pépinière d'arbres fruitiers.
Super. Et vous avez vu dans quel sens ça se passe dans la nature. L'arbre se pose et 150 ans après, Jackie arrive, voit l'arbre et se pose aussi.
Voilà, exactement. De toute façon, c'est la nature nous apprend. Elle nous en apprend tous les jours. Ce ne sont pas que des mots. Hein.
Non.
Voilà.
C'est parti, Jackie. On est
alors,
dans le jardin.
Voilà.
Hop là.
Alors, dans le jardin, bon, évidemment, quand on est jardinier, on a plein de plantes. Hein. On a différentes, de toutes sortes. C'est qu'une partie de mon potager. Hein. Simplement dire que j'ai aussi un potager à la Védrinelle, à côté du lac du Moulinet, où je fais pas mal de légumes. Et en fait, ici, c'est plutôt les légumes de proximité, c'est-à-dire des salades, des tomates, des plantes condimentaires qu'on peut venir chercher facilement.
Oui, après, c'est les grandes cultures que tu as mis à côté du lac du Moulinet.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et puis surtout, les légumes racines qui vont très, très bien dans le sol qu'on peut avoir là-haut.
Alors là, on est au tout début. D'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que Jackie prêche régulièrement pour le paillage des jardins. Je tiens à vous signaler que là, tout est effectivement complètement paillé, sur une bonne couche d'une bonne vingtaine de centimètres. Ça transpire l'humidité dans le coin. Bon, en même temps, ces jours-ci, c'est un petit peu normal. Et voilà, on voit que la végétation se porte bien et même très en avance, puisqu'on a déjà des groseilles sur les groseilliers. Bon, elles sont blanches, bien sûr.
Oui,
mais elles sont déjà là quand même.
Voilà.
Hein.
On peut parler justement, là, depuis quelques jours, il pleut. Effectivement, il a plu en moyenne 7 à 8 mm par jour depuis 5-6 jours comme ça. L'intérêt là, du BRF, c'est que ces 6-8 mm par jour, ils vont pénétrer au travers du BRF.
Ouais.
Hein? Et comme on a des gros écarts de température, ben, sur un terrain sur un sol qui aurait été nu. Au fur et à mesure, ça s'évapore, un petit coup de vent, ça s'évapore. Alors que là, ben, ces millimètres, je suis sûr que toute cette pluie, elle est sous mon BRF.
Ah, c'est sûr.
Et c'est ça la clé, en fait, hein, de bien penser que ce n'est pas seulement pour empêcher une partie des adventices, etc., mais surtout pour garder l'eau.
Et oui.
Et je crois que là, on est en plein dans ce qu'il faut faire actuellement, parce que oui, l'eau est une denrée rare. Il ne faut pas l'oublier. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a un certain équilibre au niveau des végétaux. Hein. Chacun a ce qu'il faut en dessous du BRF et puis il démarre comme il veut, selon le temps. Évidemment, ici, il y a eu aussi des gelées tardives.
Hein.
Enfin,
oui,
pas des gelées tardives d'ailleurs. C'est impropre. C'est plutôt que les végétaux avaient bien démarré avant.
Un peu tôt.
Voilà, ils avaient 15 jours, 3 semaines d'avance. Et donc, les gelées normales ont fait que cette année, ici, il n'y aura certainement pas beaucoup de cerises. Il n'y aura pas de pêche. Voilà, parce qu'il y a des pêchers de vigne, il y a tout ça aussi. Mais bon, s'il n'y a pas ça, peut-être il y aura plus de pommes, il y aura plus de poires. Il faut pas se désespérer.
Ouais, mais tu ne feras pas du vin de pêche alors cette année?
Si. Alors si.
Parce mais c'est parce que c'est avec les feuilles que
voilà,
tu le fais, suis-je bête?
Et au contraire. Donc on va faire avec les feuilles justement le vin de cerisier, le vin de pêcher, le vin de noyer. Voilà.
Oui, le vin de cerisier, c'est bon aussi. Alors juste pour nos auditeurs, histoire qu'ils se repèrent un petit peu, puisque bien sûr, comme on est en sortie pédagogique à l'extérieur, on n'est pas en direct. Hein. Et là, nous sommes aujourd'hui le mercredi... quelle journée?
On est mercredi 5 mai.
Bien joué.
Jusqu'à ce soir.
Merci, Jackie.
Voilà.
Donc voilà, parce qu'on va... pour que vous puissiez resituer un petit peu et que les gens qui sont un petit peu précis dans leur calendrier, lunaire, tout ça, jardinage, se repèrent, c'est important puisqu'elle va être diffusée, cette émission.
Voilà. Donc, alors on voit ici que dans ce potager pépinière, je ne sais pas si on entend bien le coucou, il y a un coucou qui chante.
On entend le coucou, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à l'entendre.
Ouais.
On va rapprocher le micro, mais j'ai peur que ça
on
fasse.
On va rapprocher le coucou.
Chope le coucou, Jackie.
Voilà. Donc, c'est vraiment un mélange ici. Hein. Donc, au départ, là, on disait qu'il y a quelques plantes condimentaires. Hein.
Oui, on a de la gastache anis, de l'origan, du fenouil bronze. C'est très joli, je n'avais jamais vu. Avec
voilà,
un feuillage bronze, c'est très, très beau.
Un feuillage un petit peu pourpre.
Ouais.
Mais voilà, c'est mélangé avec du mahonia, parce que c'est joli, le mahonia. Écoutez, il y a des groseilliers à fruits.
Là, il y a des blettes sauvages qui poussent.
Voilà, qui se sont ressemées.
Voilà.
Important pour moi dans le jardin de laisser des plantes venir en graines.
Voilà.
N'hésitez pas, faites-le avec les salades.
Et oui.
Gardez 2 ou 3 salades. Alors là, vous serez étonnés de la dispersion des graines. Je peux vous dire, moi, que les gens de mon quartier, ils apprécient beaucoup ma façon de faire, parce que, sans mentir, moi, chaque année, il y a à peu près 2000 salades qui poussent dans mon potager.
Et tu nourris tous tes voisins,
et,
du coup.
Et bien, quand c'est la période, et ben oui, on met des petits sacs aux portes.
Oh là là, que c'est mignon.
C'est important de faire des choses comme ça.
Oui.
Et puis, ça ne m'empêche pas, hein, parallèlement, de faire du plan, d'avoir aussi telle ou telle variété de salade. Mais celle-là, elle se ressème toute seule. C'est vraiment très intéressant.
C'est magique et c'est du travail en moins pour le jardinier.
Voilà, les blettes, et ben mes plantes blettes, ils se font tout seuls aussi. Alors, ben c'est sûr qu'on voit, là, il y en a une qui s'est installée au pied du compost.
Ouais.
Et ben, elle est tout de suite très belle parce que...
Au pied du compost, ça peut aider.
Au pied du compost.
Pas folle, la blette.
Voilà, voilà. On fera une partie pêche aussi après, maintenant
oui,
qu'on a parlé de la blette.
Alors.
Alors, que dire de plus?
Que dire de plus?
Eh bien, en fait, donc tout est bien paillé. On voit qu'il y a beaucoup de greffes, parce que c'est là aussi où je voulais en venir, sur la partie arbre, hein, sur la partie pépinière.
Oui.
Donc, j'ai aligné planté des poteaux, simplement. Hein, imaginez un fil de fer entre 2 poteaux. Et ensuite, simplement, ou des cannes ou des bambous, tous les 20 cm au pied de chaque porte-greffe. ça va me permettre, ça, ces bambous tout simplement attachés, de palisser mes jeunes pousses d'arbres et d'avoir des arbres plus ou moins droits. Hein, je ne suis pas...
Oh, c'est assez droit quand même. Hein.
Mais voilà, je ne suis pas obligatoirement un accro de ça, mais ça permet en tout cas d'avoir des arbres qui se tiennent bien.
Et tiens, en parlant d'arbres, Jackie, je suis en train de regarder cet arbre qui n'est pas très loin de ton jardin, là en face de nous, qui est un cerisier, qui a un tronc avec une forme vraiment très très étrange. Oui. Ça fait le tronc, une grosse boursouflure et enfin les branches. Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, cette grosse boursouflure qu'on voit, c'est la greffe.
C'est étrange, hein ?
C'est le point de greffe, c'est-à-dire que quand on va greffer sur un porte-greffe. Le porte-greffe, il a sa nature. La nature du porte-greffe, c'est par exemple on est dans le cadre du cerisier, ça peut être du merisier,
ouais.
Ça peut être du prunier malèbe, hein, par exemple. Donc, on vient de parler du porte-greffe qui a sa propre nature. On peut parler après du greffon, donc
oui.
De la variété qui, elle aussi, a sa propre nature. C'est-à-dire que les deux bois vont se développer de façon différente. Le développement différent, en fait, de la variété, donc c'est ce qui explique, en fait, que nos deux bois ont des tailles différentes. Voilà, ça se voit souvent sur le cerisier, effectivement, parce que le cerisier est un arbre à très fort développement. On essaye de le mettre sur un porte-greffe qui est plutôt à faible développement. Donc, dans sa nature, le porte-greffe est à faible développement. Et le greffon, lui, va très souvent devenir plus gros que le porte-greffe lui-même.
Ouais, ça fait un drôle d'effet, ça fait presque un petit bonhomme.
Voilà, quand on va voir du côté des gorges du Tarn, du côté de Millau où il y a beaucoup de cerisiers, c'est très très flagrant, on le voit bien comme ça, c'est des arbres qui sont greffés assez courts comme ça.
Mm-hmm.
En fait, simplement pour que les fruits puissent être atteints assez facilement. Voilà.
Ok.
Pour ce qui est du cerisier qui est ici.
Alors, on est toujours accompagné par le coucou. Et pendant que tu parlais du cerisier, Jackie, moi, j'observais un pic qui s'est pointé là-haut en haut de l'arbre, qui a tapé un peu, tac, tac, pouic, pouic.
Oui, alors ça, c'est un pic épêche qui est là très, très souvent.
Il était trop loin, mais j'ai vu que c'était un pic.
Ici, on a du pie vert.
Ah,
on a aussi du pic noir qui est plus rare, qui est le plus grand des pics. Qu'un cri assez...
Un peu bizarre. Oui.
Quand vous entendez un oiseau qui a un cri
bizarre.
Assez bizarre, qui est à moitié... qui pleure à moitié,
ouais.
qui crie à moitié, presque comme des cris d'enfant, et ben, c'est le pic noir. Donc ici, j'ai vu ces trois-là. Hein. On a beaucoup, beaucoup de mésanges, troglodytes, mignons. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'oiseaux autour ici. Pas beaucoup de merles, mais fauvettes à tête noire, par exemple, très souvent aussi. Si on a le bonheur qu'elles chantent, je pourrais vous en parler.
Et puis aujourd'hui, tu sais que comme c'est un temps humide et frais, tu sais à qui ça plaît, ça, Jackie, en ce moment, ce genre de temps ?
Aux escargots.
Ah non, je ne pensais pas aux escargots, mais effectivement...
Il y a des gros escargots de Bourgogne, je ne sais pas si tu en as vu, mais...
L'escargot aime beaucoup, allons voir l'escargot de Bourgogne.
Ça me permet de dire qu'ici, il n'y a aucun traitement. Hein,
évidemment,
donc,
j'espère.
Aucun traitement chimique.
Bien sûr.
Voilà, donc on a des escargots qui se promènent. Ben, ils se promènent tellement que, voilà, il y en avait un gros ici qui est parti.
Ah, mais ils vont super vite,
deux
les escargots chez toi.
En bas. Mais je te vois venir pour une autre chose.
Ah, quand même, tu vas en parler. Notre nouvelle amie commune, Jackie.
Voilà.
Comment elle s'appelle?
Donc, on a une amie commune qui peut avoir ses quartiers ici.
Ouais.
C'est la salamandre tachetée.
Ça, c'est
hein,
génial, la salamandre.
Salamandre noire à taches jaunes. Eh bien, j'ai le bonheur d'en avoir par ici. Le bonheur aussi qu'ils se reproduisent par ici.
Il y a un petit trou dans le jardin de Jackie. Alors,
voilà.
Il nous a dit tout à l'heure qu'il y avait de l'argile. Donc, Quand donc, il pleut, le petit trou, il se remplit d'eau.
Voilà.
Et un qu'est-ce point qui bas se passe du, dans point, le petit trou d'eau?
Un point bas du jardin dans lequel, ben, en fait, ça fait une mini-mare hein, d'un mètre carré à peu près.
Voilà.
Mais c'est bien suffisant pour que les salamandres viennent y déposer leur progéniture.
Voilà. Et maintenant que je sais tout sur la salamandre grâce à toi, Jackie, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Alors, je suis en train de m'approcher de la petite mare pour essayer de voir des bébés salamandres. Donc, la salamandre, c'est un des plus vieux animaux qui reste parmi
terre,
nous,
eh oui.
Bien plus vieux que les dinosaures.
Eh oui,
c'est,
mais alors là,
c'est l'ancêtre des tétrapodes. Et bon, c'est bien plus vieux que le lézard aussi. Hein.
Oui,
c'est un
sûr.
Amphibien, la salamandre. Donc, elle naît dans l'eau. Elle évolue dans l'eau avec des branchies externes au départ. La maman pond dans l'eau. Et ensuite, bon, ben, elle se casse, elle laisse ses œufs comme ça, là, débrouillez-vous. Bon, c'est déjà des petites salamandres,
oui,
hein, avec
voilà,
leurs branchies, c'est pas que des œufs, hein, bien sûr.
C'est ce qu'on appelle ovovivipare,
voilà.
C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, en fait, la poche, l'œuf qui contenait le bébé salamandre se libère. Et donc
de
elle,
suite.
Voilà, de
voilà.
suite.
Elle fait l'œuf et la salamandre sort de l'œuf immédiatement, en fait. Et donc, les petites salamandres, elles vont rester dans l'eau petit à petit. Alors, au départ, elles sont pas du tout noires tachetées de jaune. Au départ, elles ont plutôt la couleur du fond de l'eau. Du coup, ce qui leur permet de se camoufler, de se cacher sous les feuilles. Elles vont manger tous les petits insectes qu'elles vont pouvoir trouver, là. Et puis, petit à petit, elles vont perdre leurs branchies, elles vont changer de couleur, devenir noires foncées avec leurs petites taches jaunes. Et puis, elles vont sortir de l'eau. Et pour y rester, finalement, il n'y a que les femelles qui retourneront dans l'eau pour pondre leurs œufs. Sinon, ensuite, leur vie se passe à l'extérieur de l'eau.
Voilà, sous les feuilles, dans les régions justement un peu boisées comme ça. Et alors, il faut savoir qu'effectivement, il leur faut de l'eau pour la reproduction. Ce qui fait que c'est aussi un danger énorme pour elles avec les voitures.
Oui.
Vraiment avec les voitures, certaines dans des moments secs où la pluie va commencer, et ben la nuit elles vont transhumer comme ça pour aller vers des points d'eau.
Ouais.
Et alors là, malheureusement, moi je connaissais un endroit comme ça, c'est en montant la côte de Campagnac, hein, entre Saint-Laurent-d'Olt et Campagnac,
ouais.
Où en fait il y a une côte là, et c'était par centaines
qu'on
voyait des cadavres de salamandres dans les nuits comme ça, très humides. Hein. Il leur faut ça pour simplement... elles sont fragiles au niveau de la peau. Il ne faut pas qu'elles sèchent cette espèce de soin qu'elles ont sur la peau. Et donc, c'est pour ça qu'elles profitent de la nuit humide pour migrer comme ça.
Pour migrer comme ça. Et la salamandre, elle a un truc très rigolo, c'est qu'elle a... C'est ce qui explique sûrement sa longévité et le fait qu'elle se soit autant adaptée, parce qu'elle a trouvé des modes d'adaptation assez hallucinants, la salamandre. Et en fait, c'est un rythme très lent. Elle n'est pas du tout agile comme le lézard. Hein. La salamandre, elle avance très lentement, voilà, avec une façon particulière de se déplacer. Après tout, elle ne craint pas grand-chose parce que ses couleurs noires et jaunes signalent aux prédateurs très peu nombreux que si jamais ils essayent de la bouffer, ça va les brûler très fort en fait.
Oui.
Parce qu'elle va se défendre en émettant un produit très toxique pour les prédateurs.
Voilà, c'est les glandes à venin qu'elle a sur la peau et qui en fait va faire régurgiter, hein, vomir l'animal qui par inadvertance l'aura mangé et qui donc saura une bonne fois pour toutes que c'est pas comestible.
Et voilà, et il donc, transmet aux générations futures.
Voilà, donc c'est un animal qui donc est vénéneux.
Ouais.
Hein, puisque il va pouvoir déposer son venin comme ça sur dans le circuit d'absorption d'un animal, ou alors si vous avez une plaie sur les mains par exemple, et ben il va pas falloir la toucher. Par contre,
de toute façon, il ne faut pas les toucher, il faut leur foutre la paix aux
voilà.
salamandres,
oui,
quand même. Quelle idée.
Des fois, pour observer, hein, nous, naturalistes, voir si c'est un mâle ou une femelle, etc., on peut être amené, ou moi, j'en ai vu ici, par exemple, qui étaient sous le dôme que j'ai, je les ai sortis. Alors, au lieu de prendre une pelle, etc., je n'hésite pas à les prendre à la main, parce que si je n'ai pas de plaie, je me lave les mains après, il n'y a aucun problème. Hein, comme les crapauds, il y a toute une problématique autour de ça qui est un peu inventée. C'est pas venimeux, c'est vénéneux. Donc ça ne va pouvoir passer que par l'intermédiaire de plaies. Mais ne vous privez pas de les attraper pour, par exemple, quand on les trouve sur la route, pour les mettre plus loin sur un bord de route.
Et oui.
Ça va pas vous rendre malade.
On est en plein là dans la période de reproduction des crapauds aussi. Mais c'est bien que tu précises tout ça parce qu'il y a quand même quelques légendes rurales qui ont la peau tenace.
Hein. Voilà.
Donc si vous n'avez pas de plaie, vous pouvez déplacer le crapaud pour éviter qu'il soit écrasé. On peut l'embrasser ou pas?
Oui, pour voir si c'est un prince charmant.
Il faut essayer.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Alors.
Alors donc on est toujours en train de déambuler
dans les méandres du jardin de Jackie. Une salade.
Du jardin, voilà, typiquement un plant de salade qui s'est semé tout seul.
Parfait.
Voilà. Alors
de la
ici,
ciboulette.
On a l'ail des Incas. On a du thé d'aubrac. On a voilà.
De la rhubarbe.
De la rhubarbe. Et puis aussi bien à côté des fleurs, des iris.
Oui.
Voilà, on a les petits pommiers qui sont en fleurs.
Ouais. Hein,
pour certaines variétés.
Courage.
Alors ça c'est intéressant aussi à noter selon les variétés, comme je le sous-entendais tout à l'heure. Eh bien, on va avoir des arbres qui ne sont pas développés de la même façon dans une même espèce. Ici, regarde si tu veux.
Oui.
Ici, on voit un futur bouquet. C'est vraiment des tout petits boutons de fleurs d'un pommier.
Ouais.
Et ici, j'ai des fleurs d'un pommier
qui sont déjà bien écloses. Ouais.
Ce qui veut dire que là aussi, quand on a des arbres fruitiers, c'est bien d'avoir des variétés différentes. Pour échelonner non seulement au niveau de la consommation, mais aussi justement par rapport aux gelées, comme on disait tout à l'heure. À partir du moment où j'ai des floraisons qui ne sont pas toutes en même temps, je ne vais pas risquer. Si un moment il y a une grosse averse de grêle, très important de diversifier les variétés.
Et puis même pour la cueillette, sans parler des aléas météo, Jackie, même pour la cueillette, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une maturation échelonnée. Ça vous permet petit à petit de récolter vos fruits, vos légumes et de les traiter, de les conserver, etc. Afin de les traiter en cuisine, je voulais dire, hein, bien sûr.
Alors ici aussi, beaucoup de petits fruits.
Hein, donc, des petits fruits.
Oui. On a parlé des groseilles là-haut. Alors, j'ai des groseilles rouges, j'ai des groseilles blanches, j'ai des cassis noirs, j'ai ce qu'on appelle du cassis blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cassis dont les grains vont rester assez verts, hein, en fait, assez couleur, presque de la couleur des feuilles. Un cassis qui est plus doux. Pour les gens qui trouvent ça un peu hard, le cassis, le cassis blanc est un petit peu plus doux. Il y a ici aussi caseille, hein, qui est donc un
mélange
entre la cassis. Groseille et groseille à macro.
Ah, pas cassis.
Voilà, hein.
Ah, groseille, perdu.
Groseille à macro.
Tu peux me taper, vas-y, bim.
Dans la forme des fruits, quand ils seront... Je t'invite cet été à venir, tu verras qu'ils ont la forme un peu de groseille à macro.
On fera un pique-nique cet été par là.
Des groseilles à macro, il y en a aussi ici. Hein. Il faut savoir que tout ça, ce sont des boutures. Groseille à macro, par exemple, je dois en avoir 4 ou 5 variétés, simplement parce qu'un jour, j'étais chez une dame qui me dit « Oh, je profiterais bien que tu sois là pour que tu me les tailles. » je les taille.
Je profiterais bien de la taille pour faire des boutures.
Et en fait, voilà, boutures. Et puis, vraiment, les boutures, il faut pas hésiter. On perd rien. Hein. Ça
et
marche
non.
ou ça marche pas.
Voilà.
Moi, je suis assez sidéré des fois de voir un pot de groseillier dans le commerce qui va coûter une quinzaine d'euros.
Oui.
Alors c'est
boutures...
si facile de faire une bouture.
Et en plus, la bouture, vous partez d'un arbre qui est déjà adapté.
Voilà. Donc ici, les conditions sont difficiles. Il hein. n'y a rien qui est arrosé, puisque comme on disait, il n'y a qu'un tout petit trou d'eau. Ce trou d'eau...
il est pour les salamandres,
Il est pour les salamandres. Je puise juste un petit peu d'eau avec l'arrosoir de temps en temps quand je vais repiquer quelque chose, mais je n'arrose rien. ça doit se débrouiller tout seul.
Ouais.
Y compris, on en parlait tout à l'heure, les tomates, parce que je fais des tomates. Ici,
oui.
C'est très bien abrité par les murs. Et même si je suis à 960, eh ben je peux faire des tomates et j'en récolte. Mais là aussi, quand je plante mes tomates, je mets 3 litres d'eau par pied.
À la plantation.
Des plants que j'ai fait moi-même.
Ouais.
Donc issus de graines qui étaient déjà là, etc.
Et donc qui s'adaptent au fur et à mesure, toujours pareil.
Donc 3 litres d'eau à la plantation, 15 cm de BRF. Et tout l'été, je n'arrose pas du tout. Et quand même, ces deux derniers étés où on a eu quand même canicule, sécheresse,
oui.
Eh ben, j'ai eu des tomates sans arroser.
Ah.
Essayez. Faites-le sur 3-4 pieds.
Si vous avez peur, voilà, essayez pas sur la totalité, mais testez-le parce que ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup à condition quand même de récupérer ces graines à chaque fois. Partez pas d'un plan... D'un plan F1 pour faire ça, ça marchera pas, bien sûr.
Il faut mieux faire. De toute façon, récoltons nos graines, participons à des trocs graines et plantes, puisque
ouais.
les jardiniers ont cette intelligence de pas obligatoirement être tout commerce. Donc profitons de ça. Si les auditeurs ont quelques questions à poser pour des conseils, pourquoi pas aussi d'écrire à la radio.
Ouais, hein, moi j'avais une petite question d'auditrice d'Estelle. Estelle, elle a des jonquilles, elle a acheté des bulbes, qu'elle a dans des pots, et elle voudrait bien pouvoir les conserver, et pareil avec ses tulipes, et elle demande comment faire.
Alors, quand on a, au printemps, on a acheté, là, souvent dans la grande distribution ou autre, justement les premières petites fleurs comme ça qu'on peut avoir à la maison, hein, que ce soit les jacinthes, des jonquilles, des muscaris, comme ça.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le bulbe, ce sont des plantes à bulbe, et le bulbe a besoin de se régénérer. Et pour que le bulbe arrive à se régénérer, il va falloir les transplanter en pleine terre. Donc, je transplante sans abîmer les feuilles. Hein. Les feuilles, le bulbe va en avoir besoin aussi parce que la photosynthèse va aussi renourrir. Et donc, en fait, je vais les planter. Je vais attendre, je vais bien m'en rendre compte jusqu'au moment de l'été où les feuilles vont se sécher. Je les coupe pas. J'attends que les feuilles soient sèches parce que la sève qui était dedans va aussi réintégrer le bulbe, reformer le bulbe pour qu'il puisse fleurir dans mon jardin au printemps suivant.
Et on les enterre à combien, les bulbes?
Alors normalement, on les enterre à peu près à
10 cm. C'est une montre avec ses mains.
Moi, je dis une fois la hauteur du bulbe.
D'accord.
Voilà, qui est au-dessus du bulbe, la même hauteur de terre.
Ok.
Voilà. C'est parce que si, par exemple, les crocus, ça veut dire que ça va être à peu près 2 cm sous terre, alors que la jacinthe, effectivement, le pied va quasiment être à 10 cm. Mais c'est jamais une erreur que de... Voilà, je me dis, j'enterre au moins de la hauteur du bulbe.
Ouais.
En sachant que la plante, comme elle va refaire un bulbe, elle peut très bien, elle, au bout d'un moment, réguler justement la hauteur pour être au mieux.
Au bon niveau, c'est malin. Donc, je récapitule. Le bulbe, donc vous le gardez bien, surtout, vous le mettez bien en terre. Vous le plantez à peu près à la même hauteur de terre que la hauteur du bulbe. Et surtout, vous lui laissez bien ses feuilles. Vous ne les coupez pas en vous disant, bon, ben, ça ne fait plus de fleurs, ça ne sert à rien. Parce que le bulbe, il va avoir besoin de ses feuilles pour se régénérer et pour pouvoir vous refaire une fleur l'an prochain quand même.
Alors, juste une petite précision aussi que j'avais oubliée, c'est quand on va replanter ce bulbe, s'il a des racines très copieuses, hein, ce qui arrive souvent, on va réduire ses racines de façon à ne pas trop mettre d'air sous ce bulbe-là, hein, dans la terre.
Oui, voilà. D'accord, pas d'air.
Petite précision.
Ok, coupe un peu les racines, on fait un peu comme pour un bonsaï.
Voilà, en quelque sorte.
Alors, comme la semaine dernière, on a changé de lune, t'as vu ?
Oui.
On est passé à la lune, c'était la pleine lune, elle a tourné, c'était la lune rose annonciatrice du printemps.
Voilà, comme c'est beau.
C'est joli. Alors du coup, on va vous mettre un petit peu des chansons sur la lune. Et la première, ce sera Frank Sinatra avec Fly Me
the moon.
To the Moon. Et voilà.
Voilà, et
on a fini cette petite visite pour aujourd'hui. On reviendra.
À bientôt.
À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Enat et Jackie reviendront dans 2 semaines pour la suite de cette visite à la découverte du verger.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,